Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Imaginez une entreprise qui n'existait pas il y a 20 ans et qui aujourd'hui a presque 300 millions d'abonnés payants et plus de 760 millions d'utilisateurs actifs mensuels. C'est quand même assez incroyable. 7 millions de podcasts, 590 000 podcasts vidéo. Et oui, on peut voir de la vidéo sur Spotify. 700 000 livres audio. Et moi, j'en suis un abonné. Donc, je peux vous dire, ça, on s'y met assez facilement. 11 milliards de dollars reversés à l'industrie musicale. On va parler de tout ça avec Antoine Monin. Bonsoir, Antoine.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, directeur général de Spotify pour la France et le Benelux. Première question, dans toutes ces dates-là, on démarre, donc la première c'est octobre 2008, c'était le lancement en Europe. Ouais. S'il fallait retenir, allez, une, deux, trois dates dans ces 20 ans.
Bah, on va dire il y a 20 ans, au printemps 2006, quand Daniel Ek a l'idée de créer, enfin, de répondre à la crise du disque, en fait. Il y a 20 ans, on est dans la crise du disque, avec l'arrivée du haut débit, du peer-to-peer, le marché de la musique s'effondre.
Le piratage est en train,
voilà, les gens ne veulent plus payer pour de la musique, donc les maisons de disques ne peuvent plus rémunérer les artistes. On est vraiment dans une période de crise. Et il y a 20 ans, Daniel Ek, à Stockholm, Spotify, entreprise suédoise,
européenne,
décide de créer un service qui va essayer de répondre à ce problème-là. On va dire 10 ans plus tard, donc il y a 10 ans, on va faire.
Il y a un film, d'ailleurs, je conseille.
Il y a une série sur Netflix.
Oui, qui raconte un peu l'histoire.
Ouais, qui est librement inspiré de faits réels. Mais en tout cas, c'est vrai que ça retrace une épopée assez incroyable. Il y a 10 ans, pour revenir à mi-chemin, on va dire, on était à quelques dizaines de millions d'abonnés seulement. Et là, vous l'avez dit, on est à 290 millions d'abonnés dans le monde, 750 millions d'utilisateurs actifs. Donc c'est une vraie réussite européenne, indépendante. Et je pense que, sauf preuve du contraire, c'est la seule entreprise européenne leader sur son marché face aux géants de la tech que sont les grandes entreprises américaines.
On peut citer SAP dans le monde du logiciel B2B, mais dans le B2C, oui, c'est la seule. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, Spotify ait réussi à garder ce drapeau suédois et ce drapeau européen, notamment?
Je crois que, justement, venir d'un pays européen, c'est avoir un attachement très fort à la culture locale. Et je crois que très vite, nous, on investit beaucoup dans la culture locale. Vous l'avez dit, on a reversé déjà 70 milliards de dollars de revenus aux ayants droit de la musique depuis notre création, dont 11 milliards rien que l'année dernière.
Sur un marché de la musique qui est de un peu plus de 30 milliards, je crois, globalement, annuel.
Annuel, voilà.
Donc, sur la même un tiers, ça vient de ça,
voilà, streaming. Vous avez raison de le souligner, à peu près un tiers aujourd'hui vient de Spotify. Donc c'est de la valeur qu'on a recréée et qu'on a recréée pour les ayants droit de la musique et pour les artistes. Donc je crois qu'aujourd'hui, cette réussite européenne, cet attachement à la culture locale, le fait qu'on investisse beaucoup dans les fonctionnalités, dans la plateforme, vous l'avez dit, après il y a eu les podcasts, les livres audio.
Moi, j'ai pas fait toute la liste de toutes les... Bon, il y a eu des acquisitions de start-up, notamment, mais tout ce qui a été fait à la fois en termes de nouveaux services et à la fois en termes de technologie, parce que derrière tout ça, c'est quand même une tech compagnie.
Bien sûr.
On n'est pas juste à télécharger de la musique et la relancer sur les réseaux.
Je crois que justement, la formule, c'est ça. C'est l'innovation, l'investissement dans l'innovation et la plateforme, mais aussi une connaissance profonde de la culture et l'investissement dans le capital humain. On a des éditeurs dans tous les pays qui font les playlists, etc. Donc c'est vraiment...
Combien de personnes aujourd'hui, Spotify dans le monde?
Spotify dans le monde, c'est quasiment 8000 personnes.
Oui.
Donc on a à peu près équitablement réparti entre l'innovation technologique, j'ai envie de dire, et les autres services, dont l'investissement dans la culture, la musique, les livres audio, les podcasts, etc.
Comment on peut caractériser aujourd'hui, sur ces 20 ans, alors je parlais de cette série sur Netflix, mais c'est vrai que il y a un truc que j'ai bien aimé dans cette série, c'est que ça expliquait bien quand même les relations avec les maisons de disques qui se sentaient un peu flouées, qui savaient pas trop comment faire. Daniel Ek, qui voulait pas apparaître comme un pirate non plus. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on en est où de ces relations à la fois avec les maisons de disques, avec les artistes? Est-ce que ce sont des relations apaisées, stabilisées? Bon, il y a encore un peu de négociation, évidemment.
Toujours, mais très clairement apaisées, parce que quand on apporte un tiers de la valeur du marché, à peu près, dans les calculs que vous avez faits, quand on reverse 70% du chiffre d'affaires de Spotify, va aux artistes et aux
éditeurs. On va en reparler, justement.
Donc forcément... Il faut dire qu'il y a 20 ans, personne ne savait que le modèle allait s'imposer. Donc, moi, j'étais dans une maison de disques il y a 20 ans, ça fait 30 ans que je suis dans le métier. Si on revient en arrière, il y avait plein de modèles différents qui se proposaient, mais c'était quand même compliqué de se dire c'est celui-là qui va marcher. Donc, je crois que c'est la ténacité, l'investissement, l'innovation, et encore une fois, l'investissement dans la culture et les artistes et la connaissance du marché de la musique.
Je pense que, à la fois, ça a sauvé, en partie l'industrie de la musique, et puis à la fois ça a évité le piratage, parce que je crois qu'on partait là, quand on voit les technologies aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ça, on y serait, s'il n'y avait pas eu des acteurs comme Spotify, on y serait en plein dedans.
Absolument, c'est ce qui a permis à l'industrie musicale de retrouver de la valeur et de recréer de la valeur.
Alors les défis, alors justement on parlait de 70 milliards reversés, les défis évidemment c'est la rentabilité, hein. On scrute toujours le moment où Spotify est passé dans le vert. Bon, c'est la couleur du logo, la couleur de la marque, mais c'est vrai que ne possède pas le contenu musical, ne contrôle pas les droits, reverse énormément d'argent, on l'a dit, un peu de pricing power, parce que oui, les prix augmentent, mais voilà, on peut pas tout d'un coup dire tiens, je vais faire une offre à 90 euros qui va vous donner plein de choses, parce qu'il y a quand même des concurrents à côté, et puis est-ce que les gens sont prêts à payer tout ça, mais voilà, comment faire justement pour ça, enfin ça c'est l'un des défis, hein.
Ça a été un des défis. Alors la rentabilité, on l'a atteinte, oui, il y a deux ans. Voilà, donc c'est vrai que c'est, si on suit l'échelle de 20 ans, il a fallu pendant 18 ans investir, avoir des investisseurs et des partenaires solides, investir et innover. Mais je crois que justement la croissance du nombre d'utilisateurs qui a été exponentielle toutes ces 20 dernières années, le fait qu'on franchissait des étapes les unes après les autres, rassurait, j'ai envie de dire, les gens qui investissaient dans Spotify, les labels aussi, hein, les maisons de disques se sont dit ok, c'est un modèle dans lequel on croit, donc on va continuer à le défendre et à le soutenir. Et au fur et à mesure que le modèle a fait ses preuves, après c'était le moment d'équilibrer les investissements, les dépenses et les recettes pour atteindre la trajectoire de rentabilité il y a deux ans.
Alors aujourd'hui, voilà, il y a ce défi de la rentabilité. Ce défi, bon, il y a une concurrence, hein, évidemment, les Apple Music, les Amazon, mais aussi il y a un autre type de concurrence qu'il faut regarder de près, c'est les TikTok, les YouTube, les réseaux sociaux. Est-ce que ça, voilà, on regarde ça avec attention chez Spotify?
Aujourd'hui, nous, on investit vraiment sur des connexions qui font sens. C'est-à-dire, c'est créer ces découvertes, cette émotion entre un utilisateur, un artiste, un auteur de livre audio ou un podcasteur. Donc, on est vraiment dans un moment qui fait sens, dans un moment enrichissant, émouvant, de découverte. Donc, on peut pas forcément se comparer à certaines plateformes que vous avez décrites, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une expérience qui a du sens. Les utilisateurs Spotify passent beaucoup de temps sur notre service, sur notre plateforme, parce qu'ils y prennent goût, parce qu'ils y prennent plaisir et parce que c'est des contenus enrichissants. Donc, on regarde pas tous ces concurrents de la même manière.
Alors, justement, moi, je dis toujours, moi, j'aimerais que Spotify soit encore plus fort dans le domaine des réseaux sociaux, parce que finalement, vous avez, vous pourriez être un réseau social beaucoup plus important.
On ne l'est pas.
Vous l'êtes un petit peu dans le monde de la communauté de la musique, mais est-ce que ça pourrait être l'un des axes de développement, parce que finalement il y a ces communautés autour de la musique.
Non, c'est pas notre objet, c'est pas notre positionnement, c'est pas nos intentions. C'est vrai qu'on met en relation des artistes,
parce qu'on est plutôt passif devant Spotify.
Mais je pense qu'aujourd'hui cette richesse là cette connexion, elle se le fait entre le créateur et l'utilisateur. Alors l'utilisateur, il partage dans son cercle familial, bien sûr qu'on a des moments de partage de culture et de musique, ça c'est normal, mais c'est pas notre vocation, c'est vraiment de créer ces connexions entre les créateurs et les utilisateurs et de continuer à enrichir les découvertes et la découverte culturelle.
Parce qu'aujourd'hui, faut le dire, on va revenir sur l'IA dans un instant, mais pour un, alors évidemment, il y a les grandes marques, les grands chanteurs, les grands artistes, mais même pour des plus petits artistes, c'est une formidable opportunité. Ils n'auraient jamais pu éditer des CD. Bon, oui, on pouvait le faire à droit d'auteur, enfin à titre de, à prix d'auteur, enfin, je ne sais plus quelle est l'expression, mais en tout cas, ça coûtait de l'argent.
Un compte d'auteur,
voilà. Aujourd'hui, on peut poster sur Spotify, on est un inconnu et puis ça peut marcher.
Vous avez raison, ça c'est un changement fondamental aussi avec l'arrivée du streaming et Spotify, c'est qu'aujourd'hui le nombre d'artistes qui peuvent prétendre à arriver sur le marché a énormément grandi, ce qui fait aujourd'hui que les revenus sont distribués sur un beaucoup plus grand nombre d'artistes. Donc aujourd'hui il y a de plus en plus d'artistes qui gagnent suffisamment d'argent grâce à Spotify et au streaming, beaucoup plus qu'à l'époque du CD.
On peut estimer à partir de combien de millions d'écoutes on commence à gagner un peu sa vie?
Alors c'est variable,
c'est
selon les pays.
Ouais,
en fait,
ouais.
Voilà, ça va dépendre des pays, parce que
selon les artistes.
Voilà, selon les artistes, selon le pays où vous êtes écouté, le prix de l'abonnement évidemment pas le même selon les pays et les pouvoirs d'achat. Donc on peut pas donner une généralité, mais il y a de plus en plus d'artistes. Il y a plus de 50 000 ou 100 000 artistes aujourd'hui, on estime, qui arrivent à gagner leur vie grâce au streaming et à Spotify, ce qui est est beaucoup, beaucoup plus que les quelques milliers qu'il y avait à l'époque du CD. On est déjà dans une révolution qui a démocratisé l'accès au marché pour les artistes et le succès.
Oui, et puis après, ça nous guide. Si on écoute un artiste moins connu, on peut nous dire, voilà, il est en concert à tel endroit. Enfin, voilà, ça
vous avez raison qu'en plus, Spotify développe les autres revenus et les autres moments de la carrière d'un artiste. Donc, on investit beaucoup sur les concerts. On permet de vendre beaucoup de billets de concert. On a généré 1,5 milliard de dollars de ventes de billets de concert l'année dernière.
Et puis alors, il y a cette IA qui est arrivée comme partout. Elle est arrivée aussi dans la musique. Alors, pour certains musiciens, voilà, ça leur permet d'avoir davantage d'instruments, enfin, de la création. Et puis, pour d'autres, c'est une IA qui génère automatiquement de la musique. Comment on contient aujourd'hui cette invasion de la musique IA? Mais encore une fois, ce que j'aime bien dire dans ce domaine-là, c'est s'il y a des gens qui l'écoutent, pourquoi pas? Enfin, si ça leur fait passer du moment. Bon, mais voilà.
Notre principe, c'est quand même toujours de sauvegarder cette relation entre le créateur et les utilisateurs. Donc, le principe,
ça peut être dangereux pour vous, justement.
Notre principe fondamental, c'est de promouvoir la création humaine, de promouvoir la créativité, de protéger les artistes et le respect du droit d'auteur. On s'est construit sur le respect du droit d'auteur et des artistes. Donc, on va continuer à le faire. On va continuer à distribuer des contenus qui respectent le droit d'auteur. Et donc, il faut que ce sujet de l'IA qui respecte les droits d'auteur soit géré. Ça, c'est un sujet. Donc, l'IA qui ne respecte pas le droit d'auteur, elle ne peut pas avoir.
Et là, vous avez les outils technologiques.
On a les outils.
Pour repérer.
On filtre les contenus, etc. Donc, on veut vraiment projeter l'expérience. Par contre, on ne veut pas imposer aux artistes humains leur processus de création. Donc, si certains veulent utiliser des outils d'IA dans leur processus créatif, libre à eux. Mais récemment, on a lancé une nouvelle fonctionnalité on a des profils vérifiés d'artistes. C'est-à-dire qu'on vérifie que les artistes sont des artistes légitimes, professionnels, des êtres humains qui font des tournées, etc. Pour que, voilà, il y ait au moins ce label d'artiste vérifié. Après, il faut vraiment faire le tri entre l'IA comme outil de création pour les artistes légitimes et l'IA qui est sans respect des artistes et des droits d'auteur et sur lequel, évidemment, on fait le tri.
Et puis, pour parler d'actualité, il y a cette dernière fonction DJ là, qui vient de sortir. Ça, rappelez-nous un peu le principe. Donc, on va, alors je crois qu'on va dans la partie recherchée. On tape DJ.
Vous avez un DJ personnalisé qui vous propose une sélection de titres selon vos goûts, qui va aussi vous proposer des découvertes. Et il y a une voix qui va vous accompagner. Alors, on l'a localisée en français, en allemand, en italien. Elle existait en anglais depuis quelques temps, en espagnol aussi. Donc, ça, c'est vraiment, c'est votre playlist avec une voix qui vous accompagne pour faire les transitions entre les titres.
Si on se projette, alors là, on a vu les défis autour de la rentabilité, de la musique sur l'IA, de continuer à promouvoir un peu tous ces artistes. Ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on doit attendre encore? Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons aujourd'hui chez Spotify pour les 20 prochaines années? C'est un peu compliqué à dire, mais voilà, pour les prochains mois.
Bah, je crois que c'est continuer à proposer une expérience toujours plus riche, à la fois pour nos utilisateurs et pour les artistes et pour les créateurs. Ils nous demandent tous, voilà, comment on crée de la connexion, comment on crée de l'engagement. Donc, je parlais par exemple des concerts. Aujourd'hui, on investit beaucoup dans ce domaine-là. On voit aussi que le succès des concerts est phénoménal. Les remplissages des salles et des festivals, c'est aussi grâce au streaming. Oui. Les gens découvrent plus de musique, plus d'artistes, ils vont les voir en concert. Donc, on va accompagner les artistes, les créateurs et les utilisateurs à trouver plus facilement les dates de concerts qui les intéressent et pouvoir accéder aux billets de concert.
Et puis les podcasts vidéo, ça marche plutôt pas mal.
Les podcasts vidéo,
je donnais quelques chiffres.
Grande expansion chez Spotify.
Les livres audio.
Les livres audio, vous l'avez dit, vous êtes apparemment un fervent utilisateur.
Moi, j'aime bien lire, mais c'est vrai que tout d'un coup, quand on découvre un peu ça, on se dit tiens, c'est quand même.
Oui, puis en voiture, par exemple, c'est un usage. En voiture, on peut continuer à. On a commencé à livrer un livre, puis on a la page qui est renférée sur Spotify, on peut continuer à l'écouter dans la voiture.
Merci Antoine Monin d'être venu fêter avec nous. Voilà, c'est 20 ans de Spotify, donc avril 2006 la fondation est arrivée en France, c'est 2008 hein, plusieurs pays européens. Et puis ça nous permet de passer du bon moment. Bon, faut pas oublier, il y a d'autres plateformes, mais en tout cas, celle-ci fêtait Spotify fêtait ses 20 ans aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.